L'écho d'ici, l'écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Victor Ouvrard.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. En France, la 16e quinzaine du commerce équitable bat son plein en ce moment. Les militants de cette forme de commerce et les entreprises qui en vivent invitent les consommateurs français à toute une série d'actions festives sur les marchés de plein air ou bien à des débats. L'objectif, c'est de sensibiliser le public français au commerce équitable et de développer bien sûr les ventes. A priori, on ne peut qu'adhérer à cette idée qui implique de payer un peu plus le produit qu'on achète dans les pays développés pour mieux rémunérer les producteurs dans les pays en développement. Pourtant, après un rythme de progression très rapide il y a une dizaine d'années, globalement, le commerce équitable ne représente toujours qu'une partie infime du commerce mondial des produits agricoles et alimentaires. Alors, est-ce un échec ? Pourquoi cette relative stagnation ? Quels sont les principaux acteurs du commerce équitable ? Qui en sont les principaux bénéficiaires ? Les petits producteurs de café, de cacao, de thé ou de banane, voient-ils leur niveau de vie s'améliorer ? Pour résumer, qu'est-ce qui se cache derrière le battage médiatique autour du commerce équitable ? Telles sont les questions que je vais poser aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Julie Stoll.
Bonjour.
Julie Stoll, vous êtes la déléguée générale de la plateforme pour le commerce équitable. À quoi sert cette plateforme ?
Alors, cette plateforme sert à plusieurs choses. On est un peu l'organisme interprofessionnel du secteur en France. On rassemble les différents labels de commerce équitable, EcoCert Équitable, Max Avelard, Biopartenaire, l'ATES sur le tourisme. On rassemble également les principales entreprises engagées dans le commerce équitable, comme Éthicable ou Alter Eco. Les réseaux de distribution également engagés, tels que Biocoop, la Fédération Artisans du Monde. Et les associations d'éducation à la citoyenneté mondiale, on va dire, pour faire court, et qui mènent des actions de sensibilisation auprès des citoyens, ainsi que des ONG d'appui aux producteurs du Sud. À quoi on sert ? Ben, on sert à organiser la concertation au sein de la profession sur où va le commerce équitable, va-t-il dans la bonne direction, faudrait-il être plus strict, comment développer le marché. On organise la concertation aussi pour organiser ces grands moments d'animation en France, tels que la quinzaine du commerce équitable. Et puis, on est en relation avec les pouvoirs publics pour faire un plaidoyer à la fois pour plus de commerce équitable et pour plus d'équité dans le commerce.
Alors également dans ce studio, Christophe Eberhardt. Bonjour Christophe Eberhardt. Vous êtes l'un des cofondateurs de la coopérative Éthicable, à laquelle a fait allusion à l'instant Julie Stoll. Que fait cette coopérative exactement ?
Alors Éthicable est une entreprise coopérative, c'est-à-dire que ce sont ces salariés qui sont propriétaires de l'entreprise. C'est une entreprise spécialisée dans le commerce équitable qui achète du café, du cacao, du sucre, des jus de fruits auprès d'un ensemble d'une cinquantaine d'organisations de petits producteurs répartis dans le monde, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, et qui distribue une gamme de produits d'épicerie, donc café, thé, chocolat, etc., dans les grandes surfaces en France.
Vous existez depuis combien de temps ?
Depuis maintenant 13 ans.
C'est beaucoup ?
Eh ben, 13 ans, oui, c'est bien. On existe dans la durée et puis on se développe puisque le marché est de nouveau en croissance. Les Français commencent à consommer des produits équitables, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Alors avec nous dans ce studio également, Éric Garnier. Bonjour Éric Garnier.
Bonjour.
Éric Garnier, vous êtes le fondateur d'une entreprise de commerce équitable qui s'appelle Choba Choba. C'est mystérieux, ça veut dire quoi ?
Alors Choba Choba, c'est un terme quechua qui est employé par les populations agricoles, notamment en Équateur et au Pérou, qui pourrait être traduit par « je te donne un coup de main, tu me donnes un coup de main ».
La langue quechua, c'est la langue que parlaient les Incas jadis, c'est
notamment, ça ? Notamment, exactement.
Et quelle est votre activité donc ?
Alors la particularité de ce projet, c'est que c'est une marque qui a été créée en collaboration avec 35 familles de producteurs en Amazonie péruvienne, des producteurs avec lesquels j'ai travaillé pendant 10 ans quand je travaillais dans le secteur du commerce équitable, à l'époque avec Alter Eco. Donc c'est des producteurs avec lesquels on a fait un constat assez triste qui était qu'aujourd'hui, malgré tout, c'était assez difficile, voire particulièrement compliqué de vivre dignement de la culture du cacao quand on a 1, 2, 3 hectares de surface cultivée, qui est finalement le cas pour 80% des 6 millions de producteurs de cacao sur la planète, et que pour leur permettre d'avoir un véritable impact, il fallait peut-être les sortir de ce rôle simplement de fournisseur de matières premières et leur permettre de prendre part à l'industrie globale du chocolat et d'être acteur véritable et de bénéficier véritablement de là où est créée la valeur, c'est-à-dire non pas sur la production agricole malheureusement, mais sur la transformation, la commercialisation. Donc on a décidé de créer une entreprise avec eux dont ils sont copropriétaires, coactionnaires, ils participent aux prises de décision, ils participent bien sûr aux bénéfices, dans une volonté d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on avait pu faire pendant 10 ans de commerce équitable.
Alors on en reparlera évidemment au cours de cette émission. Laissez-moi vous préciser que nous écouterons, nous entendrons une série de reportages au cours de cette émission. Claire Fage nous parlera dans la première partie du coton équitable ouest-africain, puis dans la deuxième partie de l'émission, nous rejoindrons Eric Sanson en Équateur pour parler de ce qui se passe en Amérique latine. Et puis nous repartirons en Afrique, en Ouganda, avec Charlotte Cosset pour parler des problèmes que pose le commerce équitable dans ce pays aux producteurs de café. Julie Stoll, où en est le commerce équitable en France en ce moment ?
En ce moment, le commerce équitable se développe plutôt bien. On est à un montant de croissance des ventes en 2015 qui est de 17,5%. On est aussi dans une phase d'élargissement du commerce équitable à des produits également français suite à un changement de loi qui définit le commerce équitable en 2014. Et sur le commerce équitable traditionnel, on est sur une croissance de 11,5%.
La notion, la définition de commerce équitable en France a changé ?
Alors, la France est un des rares pays au monde qui a une loi sur le commerce équitable et donc qui définit globalement où commence et où s'arrête la démarche. Il y a eu une première loi en 2005 qui n'était pas rédigée de manière particulièrement appropriée et qui était assez vague et qui ne correspondait pas complètement aux grands principes
donc,
fondamentaux des acteurs. Alors, ce qui a changé, c'est que la loi aujourd'hui française précise bien que pour pouvoir se revendiquer du commerce équitable, il faut payer un prix juste qui couvre les coûts de production, il faut que les acheteurs s'engagent dans la durée pendant plus de 3 ans. Il faut payer une prime de développement pour le financement de projets collectifs et il faut que ça s'adresse à des organisations organisées de manière démocratique. Et également, ça inclut la dimension éducative de ce type de consommation. Et ça fait tomber les traditionnelles barrières, je dirais, qui cantonnaient le commerce équitable à des échanges nord-sud, mais ouvrent une vocation universelle du commerce équitable.
Christophe Eberhardt, le commerce équitable en France, vu de votre lucarne de commerçant, en quelque sorte, il se porte très bien en France ?
Oui, parce qu'il est il a été peut-être un peu limité pendant les années de crise, là, à partir de 2008. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup dans les années 2000, 2003, 2004, au moment où le commerce équitable passait des magasins spécialisés, puisque le commerce équitable existe depuis plusieurs décennies dans les magasins spécialisés. Et dans ces époques-là, il est passé dans les rayons des grandes surfaces, sont créées différentes entreprises, et puis les torréfacteurs de café, par exemple, ont intégré également le commerce équitable dans leur gamme de produits. Et le commerce équitable est allé vers le plus grand nombre. Donc, et aujourd'hui, en France, dans tous les supermarchés, on trouve des cafés, des thés, des tablettes de chocolat estampillées commerce équitable.
On trouve votre production, Eric Garnier, dans les supermarchés ?
Non, pas du tout. D'ailleurs, juste en parlant de commerce équitable, on met un petit peu beaucoup de choses, je pense, aujourd'hui, derrière cette définition. Certains y voient une philosophie, certains y voient un mouvement, certains y voient un marché, certains y voient simplement une catégorie de produits. Je pense qu'ici, on partage un peu une vision commune et exigeante du commerce équitable. Moi, aujourd'hui, je ne reconnais pas véritablement Choba Choba comme faisant partie de ce commerce équitable tel qu'on le conçoit ou tel qu'on le comprend aujourd'hui, notamment à travers cette approche de vendre des produits en supermarché, bien que j'ai pu le faire à travers Alter Eco pendant des années. Nous, on a décidé de commercialiser directement notre production à travers notre site de vente en ligne, dans une forme de filière courte, mais à 10 000 km. C'est-à-dire, vu que les producteurs sont actionnaires et propriétaires de la marque à nos côtés, c'est leur marque, et ils vendent directement aux consommateurs en limitant les intermédiaires. Sans intermédiaires, donc avoir une relation producteur-consommateur qui soit la plus directe possible, et qu'on peut se permettre de faire aussi, parce qu'on est sur des tout petits volumes et sur de toute petite échelle jusqu'à présent.
Julie Stoll, est-ce que la France est une place forte du commerce équitable en Europe, ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui achètent plus, consacrent plus d'argent au commerce équitable ?
Alors, le commerce équitable est en croissance dans toute l'Europe. La France est un des principaux marchés en volume. Après, en termes de panier moyen d'achat par habitant, il y a des pays qui font beaucoup moins bien dans le sud de l'Europe et il y a des pays qui font beaucoup mieux dans le nord de l'Europe. On se situe à peu près au milieu.
Alors, vous nous présentez tous les trois le commerce équitable comme étant en croissance exponentielle. Pourtant, ça ne concerne qu'une petite partie de la production mondiale de café et de cacao. Si c'était en croissance exponentielle depuis 13 ans, Christophe Eberhardt, votre coopérative, ce serait une multinationale mondiale.
Bon, croissance exponentielle, c'est vous qui le dites, il y a des croissances, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui s'y intéressent, qui adhèrent à l'idée de commerce équitable. En France ou partout en Europe, voilà, les gens, je crois, prennent aujourd'hui adhèrent à l'idée du commerce équitable. J'achète un produit, j'achète une tablette de chocolat, je sais que cette tablette de chocolat va contribuer au travail d'une organisation de producteurs, va améliorer des niveaux de vie, ça m'intéresse. Et en même temps, le commerce équitable aujourd'hui permet de mettre sur le marché des produits différents. Les tablettes de chocolat que nous vendons, ce sont des produits souvent de terroir, parce que comme les vins, les cacaos sont des produits de terroir.
Mais les grandes multinationales font la même chose.
Tellement. Les grandes multinationales font du chocolat de masse. Vous avez une tablette de chocolat qui a un goût constant et qui plaît au plus grand nombre, dont vous ne savez pas du tout d'où il provient, qui le produit, ni dans quelles conditions.
Julie Stoll, vous partagez ce point de vue ? Le commerce équitable a fait une percée en Europe, en France ?
Ah oui. Absolument.
Mais pourtant, les chiffres sont constants et représentent très peu.
Ça reste encore modeste. On n'est clairement pas les acteurs dominants du marché. Il y a encore clairement beaucoup de travail à faire. Après, je pense que le commerce équitable a acquis une place dans le domaine de la consommation responsable et a été clairement un mouvement pionnier sur ces questions de réflexion de comment l'impact des achats des citoyens impacte les modes de production. Et c'est ça qui est important, au-delà des chiffres de croissance, de part de marché, etc., c'est de voir comment cette idée du commerce équitable, ce que ça illustre sur le terrain et ses capacités à transformer les choses à tel ou tel endroit du monde, peuvent résonner plus largement sur l'ensemble des modes de consommation, le bio, le local, les AMAP, etc. Il y a quand même, je veux dire,
des liens. Les AMAP, précisez ce que c'est.
Ah, les AMAP, c'est les associations
de... Vous parlez à un public, un auditoire qui n'est pas hexagonal.
Les AMAP, ce sont des associations de maintien de l'agriculture paysanne. Ouais. Et c'est des groupes de consommateurs qui se mettent ensemble et qui passent des contrats avec des agriculteurs de leur région pour être approvisionnés régulièrement en produits agricoles, très souvent issus de l'agriculture biologique. Je veux dire, il y a un lien de filiation évident entre l'idée du commerce équitable, du lien direct avec les producteurs, d'un prix juste payé, et avec ce mouvement des AMAP, qui est une forme de commerce équitable à la française. Voilà, donc je pense qu'au-delà des chiffres du commerce équitable, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette idée, comment ce mouvement transforme les politiques publiques, les mouvements de consommation et les modes de production.
Alors parfois, les producteurs insérés dans les filières équitables n'arrivent quand même pas à écouler leur récolte. C'est ce qui se passe avec le coton équitable africain, en Afrique de l'Ouest en particulier. Écoutez ce reportage signé Claire Fage.
Ils se sont lancés dans le coton bio ou équitable au milieu des années 2000, mais 10 ans plus tard, leur coton est noyé dans la masse du coton conventionnel, faute de clients. Adieu le supplément de prix et la prime de développement. Soloba Madi Keïta préside la Fédération des coopératives de producteurs de coton de Kita, dans le sud-ouest du Mali. Il constate le découragement des jeunes.
La non-vente du coton équitable a fait que beaucoup de jeunes ne se retrouvent plus dans les champs de coton. Ils ont préféré aller soit dans les zones aurifères pour leur paillage traditionnel, ou bien alors ils sont partis en Europe, en Libye, la zone où on a commencé la culture du coton équitable. À Kita, la zone de Djia, c'est la zone aussi qui connaît le plus de jeunes à l'extérieur aujourd'hui.
Le Burkina Faso s'est retrouvé avec 600 tonnes de fibres bio et équitables sur les bras. Son principal client, l'enseigne américaine de lingerie Victoria's Secret, s'est éclipsée. Diversifier les clients, c'est un impératif, reconnaît Youssouf Djimé Sidibé. Il coordonne le projet coton bio et équitable ouest-africain.
Ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de ne pas se laisser dans la dynamique d'un seul client. Avec nos partenaires Max Avlar, Fairtrade, le forum, c'est une occasion de promouvoir les achats, les commandes publiques. La ville de Paris est habillée avec le coton équitable. La Poste, Colas, a fait des vêtements de travail avec le coton biologique équitable. Si d'autres entreprises se lançaient dans cette dynamique, une grande partie de notre production peut être acheté.
Le coton bio ou équitable représente à peine 1,5% de la production mondiale aujourd'hui. Mais selon l'expert Gérald Estur, il pourrait bien, à l'avenir, sauver la fibre naturelle face à la progression du synthétique.
C'était Claire Fage. C'est étonnant ce qui se passe avec ce coton équitable africain, Julie Stoll. Comment vous réagissez à ce reportage ? à cette absence de débouchés, en fait.
Oui, c'est vrai que sur les produits alimentaires, en fait, le commerce équitable a réussi une certaine percée parce qu'il était visible pour les consommateurs et parce qu'il y a eu des marques pionnières, hein, telles que Alter Eco, Éthicable, dont on vient de parler, qui ont permis de créer des débouchés. Et sur le coton, on n'a pas réussi jusqu'à présent, en fait, à embarquer les marques conventionnelles dans des achats différents, dans des approvisionnements plus équitables. Et les marques alternatives qui se sont développées ont dû faire face à trop de contraintes, en fait, pour exister sur le marché. Il y a eu des très belles initiatives qui, hélas, ont disparu. Mais la filière textile, en fait, est beaucoup plus complexe qu'une filière alimentaire. Et les contraintes ont fait qu'à ce jour, on a du mal à trouver des débouchés, effectivement, pour le coton équitable.
Vous en pensez quoi, ce reportage, Eric Garnier, de ces problèmes de débouchés, de ce coton équitable qui ne représente même pas 1% de la masse mondiale de...
Ouais, alors moi, je retiens surtout un intervenant qui a souligné quelque chose d'important, qui est le fait que les jeunes veulent plus produire du coton. Et ça, c'est quelque chose qui est... c'est un constat qu'on partage sur quasiment toutes les filières agricoles. Les jeunes n'ont pas envie de reprendre cette activité-là parce qu'ils voient leurs parents se tuer à la tâche, ils voient que c'est pas rémunérateur. Aujourd'hui, si on parle...
Même
dans la filière équitable aujourd'hui, ouais. Bien sûr, parce que aujourd'hui, il faut comprendre que si je prends l'exemple de la filière cacao, l'âge moyen d'un producteur c'est 50-55 ans, ce qui correspond d'ailleurs parfois à l'espérance de vie dans beaucoup de pays. Si on donne pas une perspective aux jeunes générations, et on le voit, l'industrie du chocolat aujourd'hui, elle est en train de pleurer parce qu'ils disent il y a plus de cacao, le parc des cacaoyers est vieillissant, les jeunes générations veulent pas reprendre. Si on arrivait à avoir un système qui leur permet véritablement d'avoir une perspective, c'est-à-dire de plus être simplement considéré comme un fournisseur de matières premières, mais d'être vraiment partie prenante dans la filière, et deux, d'avoir des prix qui soient réellement rémunérateurs, on n'aurait pas cette problématique-là qui est visible dans le cacao et qui est apparemment aussi visible dans le coton.
Donc, Christophe Eberhard, vous ne rémunérez pas assez les producteurs?
C'est-à-dire que les producteurs sont mieux rémunérés dans le commerce équitable. Le commerce équitable ne peut pas tout, il a aussi ses limites. De manière générale, on observe que ça renforce la capacité d'organisation de producteurs, qui améliore le niveau de vie des producteurs. Ça, c'est de nombreuses études le montrent. Nous, on va sur le terrain régulièrement, on tourne beaucoup, on voit... concrètement que...
On verra dans la deuxième partie que c'est pas toujours vrai.
Que les revenus des producteurs s'améliorent, que des dynamiques s'enclenchent, qu'ils mènent des actions, qu'ils sont porteurs de développement, qu'ils négocient souvent mieux avec leur gouvernement, avec leur municipalité. Sur l'Amérique latine, notamment dans le domaine du café et du cacao, il y a des vrais exemples de dynamiques positives.
Donnez-nous-en un.
Eh bien, le Pérou, par exemple, ou l'Équateur...
Parlons du Pérou, parce que nous allons parler de l'Équateur dans la deuxième partie.
Eh bien, au Pérou, par exemple, nous travaillons avec une organisation qui s'appelle Norandino, qui est une coopérative importante, qui maintenant réunit 7000 familles de petits producteurs, qui fait du café et du cacao, qui s'est renforcée, qui a une vision de développement local. C'est-à-dire qu'au-delà de payer mieux le café et le cacao à ses membres, à ses paysans membres, elle parvient à jouer un vrai rôle de développement du territoire, d'accompagnement des organisations de producteurs, de formation des hommes et des femmes, d'avoir une incidence politique. Je parlais des municipalités parce qu'elle arrive à travailler avec ces municipalités, avec la région pour favoriser des investissements en faveur de l'agriculture paysanne. Et finalement, on se rend compte que l'impact du commerce équitable, au-delà d'un prix, le prix évidemment est important, c'est aussi renforcer le projet d'une organisation de producteurs qui est porteuse d'un projet de développement.
Ça développe des pays, des régions entières, Eric Garnier, le commerce équitable ?
Aujourd'hui, la problématique, c'est quand on considère que le commerce équitable, c'est juste un prix, c'est juste un prix minimum. Alors c'est la base, c'est important, on ne devrait même pas le discuter d'ailleurs, ça ne devrait même pas être mis sur le tapis de devoir payer un prix juste à un producteur. Mais effectivement, là où il y a une grande différence, c'est que 90% des gens qui pratiquent du commerce équitable, parce que ce ne sont pas que des entreprises comme Éthicable, vont se concentrer sur les standards, qui sont d'ailleurs revus à la baisse régulièrement. Plus il y a des multinationales ou des grandes entreprises qui rentrent dans ce système, plus les standards sont revus à la baisse. Et d'ailleurs, je prendrai pour exemple ce que disait hier dans une conférence Santiago Paz, qui donc appartient à cette coopérative Norandino dont qu'évoque Christophe. Il disait le commerce équitable, c'était venu pour changer les grandes entreprises. Finalement, c'est les grandes entreprises qui ont changé le commerce équitable. Et donc, bien évidemment, il y a un impact significatif et concret quand c'est des entreprises comme Éthicable qui font un travail exceptionnel sur le terrain, avec en collaboration avec des ONG, avec exclusivement des organisations paysannes. Mais derrière ça, c'est clairement pas, à mon sens, la majorité. Et quand on parle d'évolution de marché, peut-être qu'il faut se réjouir d'une croissance du commerce équitable en tant que marché, en tant que purement chiffres, il faut voir quel est le commerce équitable, de quel commerce équitable on parle derrière. En fait.
Alors on continuera à parler de tout ça dans la deuxième partie de l'émission, parce que Éco d'ici, Éco d'ailleurs, première partie se termine. Nous marquons une pause pour retrouver un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Victor Ouvrard.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet Écho d'ici, Écho d'ailleurs, consacré au commerce équitable. Trois invités, Julie Stoll, déléguée générale de la plateforme pour le commerce équitable, Christophe Eberhardt, cofondateur de la coopérative Éthicable, et Éric Garnier de la société Choba Choba, avec un point d'exclamation, je crois, Éric Garnier, n'est-ce pas ?
Non, pas aujourd'hui, ouais. Mais on y pensera.
Bon, au cours de la première partie de l'émission, nous avons commencé à cerner ce qu'était cette forme de commerce et les difficultés auxquelles ces promoteurs font face. On a connu une période d'une dizaine d'années pendant laquelle le cours des matières premières se sont envolés. Est-ce que cela a été une difficulté pour vous, pour le commerce équitable, dans la mesure où, bien rémunérés par le marché, les producteurs auraient eu moins besoin de vous, Christophe Eberhardt? Est-ce que vous avez eu du mal à vous fournir, en quelque sorte?
Non, on n'a pas eu de mal à se fournir, je crois pas. La volatilité des prix et ces prix qui montent et qui descendent sont des difficultés réelles pour les coopératives de petits producteurs, parce que lorsque les prix sont très élevés, c'est pas facile pour elles. Les risques sont plus importants.
Pourquoi ?
Et parce qu'elles peuvent collecter à un moment où les prix sont élevés, et puis les prix peuvent descendre après, et elles peuvent faire des mauvaises opérations commerciales, et que commercialiser dans le cadre d'un marché volatile, c'est toujours très difficile. Et puis il y a les phases de périodes de prix très bas, comme c'est le cas en ce moment dans le café, hein, parce que quand même le prix c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, les prix du marché sont autour de $120 le sac. Le premium garanti...
Sac de 60 kilos ?
Le sac de 45 kilos.
De 45 kilos.
De livres, 100 livres américaines. Et donc de $120 le sac, alors que le prix minimum garanti du commerce équitable est, pour celui du symbole du producteur paysan qui est le label que nous utilisons, est de $220 le sac. Donc on est presque au double. Il est bien vrai qu'on est dans une période où vraiment le prix du marché est au plus bas en ce moment. Donc ça montre quand même aussi l'efficacité de ce concept du premium garanti qui permet, lorsque les prix s'effondrent, aux coopératives de continuer à travailler, de continuer à payer un prix rémunérateur aux producteurs adhérents et de continuer à mener leur action et leur fonction d'accompagnement des producteurs et de mission de développement social.
Mais alors Julie Stoll, si c'était si beau le commerce équitable, comment expliquer que tous les producteurs de café ne se précipitent pas dans vos bras ?
C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir des débouchés, des entreprises qui souhaitent commercialiser ces produits, et il faut avoir des supermarchés qui souhaitent mettre ces produits dans leurs rayons. Voilà, il faut lever un certain nombre d'obstacles pour passer d'une motivation des petits producteurs à accéder à un prix juste, et ça je pense qu'ils sont très nombreux à avoir la légitimité de ce désir-là, et la capacité des entreprises qui s'engagent à pouvoir vendre ces produits auprès des consommateurs. Donc c'est vrai qu'on a un vrai frein au niveau de la distribution, et c'est le cas en France en fait, hein. Où la grande distribution s'engage à petits pas et clairement pas suffisamment pour pouvoir offrir des débouchés équitables à tous les producteurs qui en ont besoin.
Éric Garnier, la balle est dans le camp de la grande distribution ?
J'espère que la balle ne sera jamais totalement dans le camp de la grande distribution. Ce serait assez triste pour notre société. C'est vrai qu'ils ont un poids important.
Quand vous parlez de votre société, c'est Choba Choba ?
Non, je parle
de la société française.
De notre société française, européenne, internationale. Après, c'est vrai qu'ils ont un poids significatif. C'est vrai que c'est aussi là où 90% des gens font leurs courses. C'est important qu'il y ait des démarches dans ce circuit de distribution. Il faut que ces démarches-là soient les plus vertueuses possibles. Et parfois, c'est pas évident d'arriver à trier le bon grain de livret. Donc, je pense qu'il faut, à mon sens, que les consommateurs soient peut-être plus attentifs, plus regardants. Nous, on possède par exemple pas de label. On n'en possédera probablement pas parce que on estime que c'est par la confiance, par la transparence et par la véracité des propos et l'authenticité de ce qu'on peut faire, que les consommateurs auront envie de nous rejoindre dans notre aventure. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs labels de commerce équitable.
On en parlera à la fin de l'émission, dans la deuxième partie de cette deuxième partie. Mais je voulais d'abord qu'on parle région, parce que j'ai essayé de vous attirer sur le terrain africain les uns et les autres, mais irrémédiablement, vous revenez toujours systématiquement vers l'Amérique latine. Est-ce que l'Amérique latine occupe une place à part dans le commerce équitable, Julie Stoll ?
Oui, l'Amérique latine occupe une place à part parce que c'est là que est né un peu le commerce équitable. Et donc, c'est là aussi que le commerce équitable a eu l'opportunité, de par la durée de vie du commerce équitable là-bas, d'avoir les impacts les plus visibles et les plus significatifs. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a aussi des très belles histoires et des très belles initiatives en Afrique. Peut-être, Christophe, tu peux parler de ce que vous faites à Madagascar, ce qui me semble être...
Oui, à Madagascar, qui est un pays fantastique pour le commerce équitable, parce qu'on y produit beaucoup de choses.
Un des pays les plus pauvres au monde.
Du cacao, du cacao, du café, des épices, des fruits tropicaux, et pourtant un des pays les plus pauvres du monde. Et il y a des vrais enjeux à Madagascar.
N'est-ce pas à rebours la preuve que le commerce équitable ne suffit pas, ne réussit pas en tout cas à sortir des paysannats entiers de la pauvreté?
Il y a des belles expériences. Le commerce équitable ne sort pas des pans entiers de la pauvreté. Crée des initiatives, soutient des initiatives qui parfois sont petites, hein, qui concernent souvent 100, 200 familles au départ, et puis au bout de quelques années, c'est un plus grand nombre de familles. La question, c'est pas seulement une question de volume. La question, c'est pas seulement de toucher tout le monde avec beaucoup de volume. C'est aussi de pouvoir accompagner des organisations de producteurs qui soient suffisamment autonomes et qui se développent et qui prennent de la force dans leur milieu et qui fassent référence et qui aillent au-delà de l'action strictement du commerce équitable. Et elles s'appuient sur le commerce équitable aujourd'hui pour développer ça. Alors c'est vrai que l'Amérique latine est un peu l'initiateur aussi à cause du café. C'est que le produit emblématique du commerce équitable, c'est le café. Aujourd'hui, 5% du café vendu dans les supermarchés en France est du commerce équitable. Et donc, ça a été les grandes coopératives du Pérou, celles qui se sont recréées dans les années 90 après les périodes libérales et qui se sont recréées sur la base des anciennes coopératives qui avaient disparu et qui a une vraie expérience et coopérative en Amérique latine, une culture de la coopération agricole et que c'est là, à cause du café et à cause de cette expérience-là, que s'est développée l'idée du commerce équitable en appui à des organisations de petits producteurs.
Éric Garnier, est-ce que c'est parce qu'en Amérique latine, il y a une tradition de politisation des masses paysannes que le commerce équitable y a trouvé quelques racines ?
Oui, je pense qu'il y a aussi une tradition du coopérativisme. Ouais. Ce qui est effectivement un terreau très fertile et très pertinent pour développer des actions de commerce équitable. Après, il faut effectivement souligner que c'est en Afrique que les producteurs sont les plus fragiles et vulnérables, aussi les plus pauvres et les plus marginalisés. Et donc, moi, je vais parler de mon expérience au Pérou, encore une fois, mais les producteurs avec lesquels on travaille, un producteur qui a 2 hectares, il peut tout simplement pas s'en sortir, même s'il est en agriculture biologique, même s'il est en commerce équitable et qu'il touche des primes de développement et qu'il touche un prix minimum, c'est très très compliqué de s'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas à l'abri d'un problème, d'une inondation qui va lui prendre la moitié de sa récolte sur une année. Là, on a des producteurs qui ont perdu 70% de leur récolte. On va avec 500 ou 600 kilos de cacao à l'année, on fait rien. Et pour l'instant, en tout cas, on parle là de producteurs qui sont au Pérou, qui ont fait partie de coopératives agricoles, qui ont été dans le circuit du commerce équitable, donc qui sont peut-être pas les plus vulnérables par rapport à les producteurs en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Ghana par exemple. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire encore dans le commerce équitable en tant que philosophie pour arriver à ce que à ce qu'il y ait un véritable impact pour les producteurs. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas, pas assez, il faut continuer de le faire. Il faut surtout pas s'arrêter, mais il faut faire plus et mieux.
Alors, on va rester en Amérique latine. Vous parliez du Pérou. Juste à côté, un des voisins, c'est l'Équateur, où le commerce équitable est aussi une réalité. Le gouvernement équatorien s'en sert d'ailleurs pour développer la production agricole dans le pays. Et pour en parler, j'ai joint le correspondant de RFI dans la capitale équatorienne, Éric Sanson. Bonjour, Éric.
Bonjour Jean-Pierre.
Éric Sanson, pour commencer, le commerce équitable a l'appui des autorités locales en Équateur, n'est-ce pas ?
Le gouvernement a lancé en 2013 un processus de construction d'une stratégie équatorienne de commerce équitable. L'idée, c'est d'améliorer les capacités entrepreneuriales des acteurs de ce que l'on appelle ici l'économie populaire et solidaire, c'est-à-dire les artisans, les paysans, les PME. Dans ce cadre, l'Institut de promotion des exportations et investissements, que l'on connaît comme Pro-Ecuador, a créé il y a 2 ans une coordination de commerce inclusif, c'est comme ça qu'il l'appelle. En général, les petits producteurs n'ont pas les moyens, alors d'abord de détecter les opportunités de marché à l'extérieur, d'organiser une structure de vente, d'organiser des contrôles de qualité, et j'en passe. Cette coordination est là pour les accompagner tout au long de ce chemin souvent très bureaucratique. Le mois dernier, l'Institut d'économie populaire et solidaire a d'ailleurs organisé un premier atelier pour avancer dans tout ce qui est normes, lois, pour favoriser le commerce équitable.
Est-ce que ça concerne beaucoup de monde en Équateur, Éric ?
Selon les autorités, il y a plus de 150 000 producteurs touchés directement ou indirectement par le commerce équitable. Côté acheteurs locaux, c'est moins brillant. Certaines expériences se sont développées avec le temps et se sont créées une clientèle. C'est le cas par exemple de tous les produits fabriqués dans le petit village de Salinas de Guaranda au pied du volcan Chimborazo. Toute la population a été organisée par un prêtre italien, le père Polo, et vend ses produits directement aux consommateurs sous la marque El Salinerito. En l'occurrence, ils ont 40 ans d'expérience, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et puis il y a aussi des raisons de coût. Le marché local paye moins que l'international.
Est-ce que les résultats sont au rendez-vous ?
Entre 2010 et 2015, les exportations équatoriennes liées au commerce équitable ont progressé de manière soutenue. Le ministère du Commerce extérieur indique que la hausse annuelle a été de 26% en valeur et 62% en volume. L'an dernier, pour vous donner une idée, c'était 150 millions de dollars, surtout des bananes, du cacao et des fleurs, qui vont à 56% en Europe et 40% vers les États-Unis.
Je crois savoir, Eric, que tout le monde n'est pourtant pas convaincu par ce qui se fait au niveau du commerce équitable en Équateur.
Côté point d'ombre, j'ai parlé tout récemment au fondateur de la marque Pacari, notamment Santiago Peraltin. Pacari a été reconnu ces dernières années comme l'un des meilleurs chocolats au monde et la compagnie paye ses producteurs le double du prix du marché et à long terme. Selon Peraltin, le commerce équitable n'a pas vraiment changé les choses, tout au moins sur le marché du cacao en Équateur. Pour lui, cela est dû au fait que pour mieux commercialiser le cacao issu du commerce équitable, les producteurs passent de plus en plus par les 5 grandes compagnies qui dominent le marché et qui, elles, poussent évidemment les prix à la baisse.
Alors, beaucoup de choses très intéressantes, me semble-t-il, dans ce récit que nous fait Eric Sanson depuis Quito. La première, si on commence par le début, c'est le rôle, l'implication gouvernementale. Christophe Eberhardt, est-ce que ça se voit très fréquemment qu'un gouvernement promeuve comme ça l'équitable ?
Je ne crois pas que ce soit très fréquent. Dans le cas de l'Équateur, il y a une sensibilité du gouvernement pour développer l'économie sociale et solidaire. Toutes les coopératives, les organisations de paysannes sont favorisées par ce gouvernement et ça crée des choses. De manière générale, c'est plutôt des coordinations des différentes coopératives qui sont pas forcément liées à l'État et qui sont plutôt insérées dans un réseau international d'acheteurs comme nous autres, ou d'associations de soutien au commerce équitable. Et on forme une sorte de mouvement, je dirais, international. Par exemple, pour donner un exemple, ces coopératives souvent bénéficient de prêts de banques solidaires. Il en existe un certain nombre. Il y en a une en France qui s'appelle la CIDI, qui est liée au secteur catholique. Et il en existe d'autres en Europe qui financent la collecte de café et de cacao des coopératives de petits producteurs. Donc ça, c'est un exemple concret pour montrer que finalement, ces coopératives de commerce équitable s'appuient sur un ensemble d'acteurs, pas toujours vraiment par l'État auquel ils appartiennent.
Eric Garnier, vous, avec votre entreprise Choba Choba dans la forêt amazonienne péruvienne, vous bénéficiez d'un soutien public ?
Alors, on bénéficie d'un soutien médiatique à date, parce que les médias péruviens sont très intéressés par ce qu'on fait. Et quand les médias s'intéressent à quelque chose, en général, les pouvoirs publics s'y intéressent ensuite. Donc c'est vrai qu'on a eu, des contacts avec le gouvernement régional de San Martín, qui est la région dans laquelle on travaille, pour essayer de présenter quel est notre modèle et voir si on pouvait essayer de le dupliquer à d'autres organisations. Aujourd'hui, on est vraiment tout petit, on a encore beaucoup de preuves à faire, mais il y a un intérêt assez fort de la part du gouvernement local sur notre projet.
Alors, vous l'aurez compris, nous parlons du commerce équitable dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI avec 3 invités. Eric Garnier de la société Choba Choba, Julie Stoll, déléguée générale de la plateforme pour le commerce équitable, et Christophe Eberhardt, cofondateur de la coopérative Éthicable. Continuons à parler de ce que nous disait Eric Sanson à l'instant. 150 000 petits producteurs en Équateur qui font de la banane, disait-il, du cacao, du café. C'est quand même considérable comme chiffre. Tu dis Stoll, non ?
Alors, je suis pas une spécialiste de l'Équateur, donc est-ce que c'est considérable ? Ça commence à être des chiffres un peu significatifs. Je pense qu'il faut faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Mais ce qui était très intéressant quand même dans le reportage qu'on vient d'entendre, c'est de voir que on a un gouvernement qui s'intéresse au commerce équitable, qui a identifié que le commerce équitable peut avoir un impact fort sur le bien-être des populations de son pays. Et je dirais que c'est ce qui est crucial avec le commerce équitable, c'est que on a des organisations de producteurs qui deviennent des interlocuteurs des pouvoirs publics. Et on est bien d'accord que le commerce équitable tout seul, même si on multiplie ses chiffres de vente par 10, par 20, par 100, on n'arrivera pas à résoudre tous les problèmes sur les matières premières. Mais par contre, si on a des groupements de producteurs qui savent défendre leurs intérêts auprès des gouvernements, ça devient très intéressant. Et si le gouvernement équatorien s'intéresse à ça, c'est grâce à des coopératives de producteurs, de petits producteurs qui savent aujourd'hui mieux défendre leurs intérêts.
En même temps, si je sais bien compter, Christophe Eberhardt, ce que disait Eric Sanson, 150 000 producteurs, 150 millions de recettes, ça ne fait pas beaucoup par producteur.
Oui, parce que peut-être que tout le volume produit par ces producteurs ne part pas vers les circuits du commerce équitable. Mais dans des pays comme l'Équateur et le Pérou, c'est le cas également, le commerce équitable a eu un vrai impact d'accompagnement d'organisation de producteurs qui n'existaient pas forcément au départ et qui se sont développés et qui sont parvenus à exporter directement leur... C'était souvent inimaginable de voir des petits producteurs qui ont 2-3 hectares de café et de cacao s'organiser pour exporter et aller sur le marché international. Et le commerce équitable leur a permis de le faire. Et évidemment, ça interpelle aussi les États et il démontre que des producteurs sont capables de faire des choses et de l'économique et de produire du développement et de la richesse. Et évidemment, ça mérite de l'appui.
Éric Sanson disait aussi qu'il fallait... Enfin, que les entreprises, les petits producteurs de l'équitable en Équateur passaient par les grands groupes, Éric Garnier, c'est surprenant.
Oui, il évoquait notamment l'exemple de Pacari, donc une petite marque, mais pour illustrer le marché du chocolat, aujourd'hui, il y a 3 multinationales qui contrôlent 70% des volumes de cacao. Il y a ADM, Cargill, Olam, qui sont voilà, des groupes importants, qui ont du coup, effectivement, face à eux, 6 millions de petits producteurs de cacao. Le rapport de force est totalement déséquilibré, et c'est ce rapport de force-là qu'il faut essayer de renverser. Toujours sur l'exemple de Pacari, Pacari précisait qu'il pouvait se permettre de payer 2 fois la matière première de cacao. C'est facile, tout le monde peut payer 2 fois, et c'est très bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien, au contraire, je veux juste souligner le fait que dans un produit comme un chocolat qui est très transformé, le prix que représente la matière première, il est tout petit. Donc le doubler, ça a vraiment un impact très faible, soit sur un prix de vente, soit sur les marges, tout dépend comment on a pensé son modèle économique. Mais ça souligne quelque chose d'important qui est, on peut déjà avoir un levier d'action assez fort sur ce prix sans que ce soit véritablement compliqué, mais c'est une première étape et c'est pas suffisant parce que sur des produits très transformés, la valeur ajoutée, elle se fait sur la commercialisation, sur le marketing, sur la transformation. Et c'était l'idée de Choba Choba de se dire, déjà les producteurs fixent même leur prix, on vient pas leur dire quel est le prix auquel on doit acheter le cacao, c'est eux qui nous disent, et encore une fois, je le répète, ça a un impact assez faible sur le prix du produit fini, et ils vont bénéficier de toute cette valeur ajoutée qui est créée tout au long de cette chaîne, parce que c'est là véritablement qu'on peut avoir un impact significatif. Ils deviennent des vendeurs de chocolat, ils vendent leur propre chocolat en direct auprès des consommateurs, sans intermédiaire. Et là, il y a un impact direct aussi de l'acte d'achat de la personne qui veut faire quelque chose de positif, parce qu'il sait que son argent va directement au producteur, puisque c'est eux qui vendent le chocolat.
C'est une pierre dans votre jardin, Christophe Eberhardt, ça, ce que vient de dire Éric Garnier, non? Parce qu'il dit, enfin, bon, c'est bien gentil de payer plus cher la matière première, mais c'est pas ça qui règle le problème.
Oui, bah, encore une fois,
ce que je dis, mais c'est ouais. Une bonne synthèse.
Moi, je crois que le reportage met en lumière aussi une chose, c'est l'existence aujourd'hui de différents commerces équitables. Hein. Quand il parle des grands groupes, nous sommes des représentants des acteurs pionniers du commerce équitable. Équitable est une entreprise coopérative, nous achetons tous nos produits directement à des organisations de petits producteurs. Le commerce équitable s'est développé, s'est diversifié, il existe aussi un commerce équitable différent, on dit parfois à 2 vitesses, c'est-à-dire qu'il y a aussi un commerce équitable qui concerne des grands groupes. Les grands groupes chocolatiers que Eric soulignait aujourd'hui achètent du cacao dans les conditions du commerce équitable, vente de la couverture de chocolat à l'industrie, qu'on va retrouver par exemple dans des marques de distributeurs ou dans des produits de grandes marques, qui sont des démarches assez différentes de celles que nous pratiquons. Et aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, des commerces équitables différents.
Alors, où va l'argent du commerce équitable? À qui? Aux producteurs, aux intermédiaires? L'Ouganda est un des 10 premiers pays producteurs de café au monde et 5% de la production de café y est qualifiée d'équitable. Mais des recherches menées pendant 4 ans et publiées par l'École des études orientales et africaines de Londres concluent à l'absence d'impact du commerce équitable sur la vie des paysans les plus pauvres en Ouganda. Pire, l'étude révèle que les ouvriers agricoles du secteur dit équitable sont nettement moins payés que leurs collègues du secteur non équitable. C'est un reportage Éco d'ici Éco d'ailleurs, signé Charlotte Cosset à Kampala.
Touri Nawe Benoni est assistant conférencier à l'université de Makerere. Sur le campus, l'imam appelle à la prière. Touri Nawe a participé à la collecte de données dans l'est du pays pour l'étude réalisée par l'École des études orientales et africaines de Londres. Il n'a étudié que des sites de production pour le commerce équitable et ce qu'il a constaté sur le terrain est loin des valeurs prônées.
Le problème, c'est que ce sont des gens très pauvres, qui n'ont pas d'éducation, très pauvres, le plus souvent illettrés. Ils ne sont pas capables d'évaluer leur travail. Ils ne savent pas combien d'heures ils doivent travailler pour être payés combien. Cela ressemble, je dirais, à de l'exploitation. Les travailleurs sont payés vraiment peu. C'est vraiment de la main-d'œuvre pas chère. Et certains cultivateurs sont encore plus exploités que ceux qui travaillent pour les fabriques, car ils cultivent et ne peuvent vendre qu'aux firmes. Donc, ils agissent comme s'ils travaillaient dans le cadre du marché libre, ne sachant même pas qu'en réalité, ils vendent à des firmes certifiées commerce équitable.
De l'équitable, pas vraiment équitable donc, selon lui, qui s'explique par le manque de contrôle, affirme-t-il.
En réalité, lorsque l'on parle aux firmes, ils vous disent qu'il y a des contrôles. Ils vous disent qu'ils donnent aux gens des équipements de protection, comme des bottes en caoutchouc ou des tabliers. Mais en réalité, ils ne leur donnent pas et ils sont donc exposés. Ce n'est pas qu'une question d'argent.
Pour trouver du café équitable à Kampala, il faut bien chercher. Tables en bois et végétation ornent cet établissement, essentiellement fréquenté par des expatriés. Le manager explique avoir fait le choix du fair trade. Il décrit sa démarche.
On traite directement avec les cultivateurs, ainsi on négocie avec eux le prix de leur café. Donc notre manière de faire, c'est que l'on essaye d'évaluer combien les firmes les payent. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un effort en plus sur le prix. Par exemple, si le prix du kilo de café est de 1000 shillings, nous on le paye 1200 ou 1300, ce qui les encourage. Ce qui fait que nous avons leur café, mais pas au prix de l'exploitation, comme le font les autres firmes.
Moins d'exploitation salariale, certes, mais est-ce suffisant? Beaucoup de travail pédagogique semble encore nécessaire sur cette question.
Un reportage à Kampala de Charlotte Cosset. Ce qu'on entend dans ce reportage, Christophe Eberhard, c'est assez accablant sur le contrôle, l'absence de contrôle de vos entreprises équitables sur la réalité sur le terrain.
Je dirais que ça met plutôt en évidence ce que je disais tout à l'heure, l'existence de différents commerces équitables. Là, manifestement, si j'ai compris le reportage, il s'agit d'entreprises exportatrices qui achètent du café. Nous, le commerce équitable que nous pratiquons, c'est un lien commercial direct avec des coopératives de producteurs, des coopératives qui sont créées par des petits producteurs et qui ont une vision de développement sur leur territoire et qui mènent pas qu'une action commerciale, qui achètent le café auprès de leurs membres un peu plus cher, mais il y a pas que le prix, il y a aussi d'autres actions. J'ai pas l'impression que là on soit dans ce contexte, on est dans un contexte de d'achat-vente entre des entreprises qui respectent des cahiers des charges, et ça montre qu'il y a commerce équitable et je pense que il y a besoin de tirer, c'est un des défis que le commerce équitable a aujourd'hui, c'est de retirer les règles vers le haut, c'est d'avoir plus d'exigences. On change d'échelle, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de grandes entreprises qui rentrent dans le commerce équitable, très bien, mais comment faire en sorte que les critères et les engagements forts d'acteurs pionniers comme nous autres puissent se maintenir et puissent aussi s'exercer? Pourquoi pas changer d'échelle? Pourquoi pas offrir des réseaux du commerce équitable dans les grandes entreprises, pour les grandes marques, mais à condition qu'elles respectent effectivement cette vision de développement et d'accompagnement du développement qui est celui du commerce équitable?
Ça pose la question des labels, Julie Stoll. Apparemment, les labels ne contrôlent pas complètement cette activité du commerce équitable.
Je crois que la plupart des labels, dans la plupart des cas, contrôlent ce qui se passe et de manière plutôt efficace. Nous, on a fait une étude l'année dernière justement sur les différents labels de commerce équitable, le contenu du cahier des charges, les modes de contrôle, etc., qui est un document accessible sur Internet, sur commerceéquitable.org. Et globalement, on s'aperçoit qu'on est quand même plutôt sur du sérieux. Par contre, c'est essentiel de faire, par ailleurs, des études d'impact, hein, telles que l'étude là qui est évoquée dans ce reportage, oui, par la SOAS. Et nous aussi, nous menons des études d'impact très régulièrement qui nous permettent à la fois de démontrer l'impact du commerce équitable quand il y en a et qui nous permettent aussi d'identifier les dérives quand il y en a. Donc voilà, c'est regrettable d'avoir une illustration qui est pas si positive que ça sur le commerce équitable, mais ça nourrit le dialogue en fait au sein de nos organisations pour identifier là où il faut aller, là où il ne faut surtout pas aller et comment résoudre ce genre de problème.
Éric Garnier, les labels sont inefficaces ou est-ce qu'ils font leur travail, Max Havelaar et autres? Est-ce que leur rôle, c'est pas essentiellement de ponctionner des revenus à cette filière du commerce équitable?
Moi, je voudrais juste dire que je pense pas qu'on puisse dire dans l'absolu le commerce équitable ne fonctionne pas quand on écoute un reportage comme ça. Je pense qu'on peut dire le commerce équitable, perçu d'une certaine façon, fait dans ce contexte-là, sur cette région précise, avec ces acteurs en particulier, ça ne fonctionne pas. Et jeter un peu le bébé avec l'eau du bain, c'est jamais très positif. Après, ça soulève effectivement des questions. La question des labels, la question des cahiers des charges, la question du contrôle de ces cahiers des charges. Je constate que en 10 ans, ça fait 10 ans que je travaille dans ce secteur-là, les cahiers des charges sont revus à la baisse plutôt que revus à la hausse, qui
donc,
va clairement pas
bien.
Dans le bon sens. Donc ouais. Ça, c'est clairement pas bien. Donc contrôler un cahier des charges qui est moins 10 ans que ce même cahier des charges il y a 5 ans, est-ce que c'est véritablement pertinent ou pas? Donc il faudrait déjà faire en sorte que les standards soient plus élevés. avant de pouvoir, avant de contrôler ces standards-là, quoi.
Christophe Eberhardt, vous le constatez, cette régression des cahiers des charges?
Oui, bien sûr, qu'il y a ce changement d'échelle. C'est pourquoi nous, Ethical, on a soutenu l'initiative du symbole des producteurs paysans, qui est une initiative des producteurs du commerce équitable d'Amérique latine, qui ont souhaité créer leur propre cahier des charges et leur propre système de certification. On est un certain nombre d'entreprises dans le monde à soutenir cette démarche. Et je crois que c'est important que les producteurs eux-mêmes puissent définir le contenu des règles, quel prix, quel fonctionnement, etc. Les labels, pour nous, ça reste aussi quelque chose d'important pour le consommateur, parce que une entreprise comme la nôtre qui prétend faire du commerce équitable, elle a son engagement, mais elle a besoin aussi de se soumettre au contrôle externe et d'avoir de la confiance vis-à-vis du consommateur. Je crois que c'est important aussi pour un consommateur de savoir qu'il y a un contrôle derrière, qu'il y a un cahier des charges, que l'entreprise, c'est pas juste comme ça une mise en avant d'une démarche sans autre fondement.
Mais les labels, n'importe qui en produit, les grandes entreprises aussi que vous mettez parfois en cause en produisent.
Yeah. Vas-y, Julie, je te donne la parole.
Les labels sont souvent des organisations indépendantes qui sont spécialistes des cahiers des charges et de la certification. Les labels n'appartiennent pas aux grandes entreprises. C'est différent, mais par contre, ils peuvent être un outil pour les grandes entreprises. Et il peut y avoir effectivement des modifications de cahiers des charges qui, en fait, ont une influence sur le terrain qui est loin d'être négligeable.
Christophe Eberhardt.
Le label Fairtrade, qui reste le label historique le plus important, est mené par le secteur associatif. C'est pas une entreprise qui est derrière le label Fairtrade. Il a pour vocation de soutenir le commerce équitable avec une vision de développement. Alors, aujourd'hui, il change d'échelle. Il s'adresse à des entreprises, il adapte ses cahiers des charges. Mais finalement, il y a quelques labels, il n'y en a pas non plus 50 000. Hein. Il y a quelques labels. Il y a les labels qui proviennent des entreprises de certification, notamment liées à l'agriculture biologique. Le label Fairtrade, comme je disais. Et puis, il y a ce label Initiative des producteurs d'Amérique latine. Et chacun a un peu ses visions et ses propres démarches.
Eh bien, merci Christophe Eberhardt, Julie Stoll, Eric Garnier. Cette émission est maintenant terminée. Victor Ouvrard était au pupitre technique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques, toujours dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI.